Nous sommes dans ce cinquième dimanche de Pâques, frères et sœurs bien-aimés, et il s'agit de méditer avec l'Évangile sur la fécondité de nos vies. C'est une chose centrale, peut-être sur laquelle nous ne portons pas assez d'attention, ou en tout cas sur laquelle nous ne méditons pas assez. Qu'est-ce qui, dans ma vie, est source de fécondité, porte du fruit, un fruit qui demeure? Et source de vie, et de vie en abondance. Qu'est-ce qui, dans ma vie, au contraire, m'entraîne vers une fermeture à cette vie et source de mort, de dessèchement intérieur? Je trouve qu'on a la réponse à cette question, c'est dans la première lecture, dans le livre des Actes des Apôtres. Il me semble que là, on peut avoir un début de réponse, parce que au fond, avec la conversion de saint Paul, qu'est-ce qu'il va faire sinon se présenter à la communauté? Les frères mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. Voilà, cette dimension de communion, il me semble que c'est quelque chose qui traverse les différentes lectures que nous propose la liturgie aujourd'hui. La communion comme un lieu qui nous permet de porter du fruit. La communion à plusieurs degrés. La communion entre nous, la communion avec ceux que nous fréquentons au quotidien, mais aussi la communion comme sacrement. Et si nous sommes ici dans cette Eucharistie, c'est vraiment pour communier à celui qui est la source de vie. Et c'est intéressant de faire mémoire de ce que nous a rappelé le pape Jean-Paul II lorsqu'il a écrit, ça date déjà un peu, mais c'est quelque chose qui est encore ô combien valable, pour le début du nouveau millénaire, il a parlé de la spiritualité de communion. De voir au fond qu'est-ce qui, dans une attitude intérieure, favorise cette communion ou au contraire nous en éloigne. Et ce qu'il... Il a dit plusieurs choses, comme ça je cite un peu de mémoire. Il a dit l'Église et l'école et la maison et l'école de la communion. Et je trouve ça intéressant de dire que pour lui, en tout cas dans cette vision vers le millénaire qui commence, l'avantage c'est que dans l'Église on résonne en millénaire, ben voilà, c'est l'école et la maison de la communion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'apprend, c'est pas spontané. De s'aimer les uns les autres, comme nous le dira saint Jean dans la deuxième lecture. Voilà, si notre cœur nous accuse, nous avons l'assurance devant Dieu, Dieu est plus grand que notre cœur. Vivre la communion, c'est aussi découvrir que c'est un apprentissage. Un apprentissage de penser, de dire à la fois « je » et aussi de penser « nous ». De se penser comme corps, car il s'agit bien de ça dans cette parabole de la vigne, du sarment et du vigneron. Il s'agit bien de se penser comme corps, comme membre d'un tout. Le sarment, loin de la vigne, il ne porte pas de fruits. Et c'est souvent la tentation, et le pape Jean-Paul II le rappelle dans cet écrit, très beau, c'est souvent la tentation que nous avons de penser que seuls nous y arriverons. Seul ce sera plus facile, seul on portera plus de fruits, seul on pourra quelque part briller davantage. Et non, c'est un piège, cet égocentrisme est tellement à la mode, c'est plus à la mode maintenant qu'avant, mais en tout cas qui est en nous, c'est cet individualisme qui est en nous, on sait bien, qui nous tend des pièges, et le Saint-Père le rappelait dans cet écrit, cet individualisme qui nous empêche d'apprendre. Donc c'est tout un apprentissage. L'école, je trouve ça beau. Et la maison, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est-à-dire que c'est quoi le rôle d'une maison si ce n'est de protéger? Protéger des intempéries, protéger des agresseurs, etc. C'est un rôle de protection. La communion, notre fécondité, elle a besoin d'être protégée. Parce qu'elle est aussi menacée, je voulais dire, d'abord par nous-mêmes. Nous sommes souvent pour nous-mêmes les premiers à nous mettre dans des chemins de sans impasse, sans issue, des impasses, mais elle peut être aussi menacée par des personnes qui nous découragent à aller dans ce sens-là, qui attisent en nous plutôt la violence, qui attisent en nous la haine, etc., plus que ce souci l'un de l'autre, ce souci d'abord de Dieu. Elle est menacée j'allais dire, par cette vie faite de tourbillonnante, et le Saint-Père en parle, l'activisme, la peur de l'agenda vide, menace la communion. Parce que ça nous évite de rentrer à l'intérieur, justement de rentrer dans ce cœur dont parle Saint Jean dans la première lecture, hein, de rentrer dans ce cœur pour demeurer, hein, demeurer avec lui. Et on prend conscience que nous avons des menaces par rapport à cette communion, très claires. Alors les uns c'est plus telle chose, les autres telle autre. Hein, le désir de pouvoir, la toute-puissance qui nous habite, le désir de possession, le désir de domination, tout ça c'est en nous. Et tout ça, ça n'aide pas, c'est des menaces pour la communion. Donc je trouve ça intéressant que le pape Jean-Paul II, dans ce texte, il parle de maison et d'école. Et puis ensuite, il rappelle une chose, je trouve très intéressante, il dit, ben, avant de penser qu'est-ce qu'il faut faire de façon immédiatement opérationnelle, assurons-nous que la communion est au rendez-vous. Et ça, je trouve ça vraiment, elle doit être, il le dit, comme un critère de discernement, tant pour le chrétien, pour les familles, les agents pastoraux, pour les communautés, pour les religieux, les paroisses, les prêtres, etc. C'est pour tous ceux là où se forment les chrétiens et les familles, c'est ce que c'est ces paroles. Assurons-nous, avant de tout de suite passer aux choses concrètes, à une forme de course en avant, assurons-nous que c'est d'abord au rendez-vous. Et ça, on prend rarement le temps de le faire. Parce qu'évidemment, rentrer dans la communion, c'est rentrer dans une certaine dépendance l'un de l'autre, c'est une dépendance d'amour, de demeurer dans le Christ, d'abord de dépendance de Dieu, ce qui n'est pas forcément simple, parce qu'on a en nous des choses qui s'opposent à Dieu, hein, bien sûr. Mais aussi fraternellement, d'avoir cette manière d'envisager choses et personnes de façon commune, tout en accueillant les différences. C'est toute une gageure, on le sait très bien. Mais on voit bien que si on ne vérifie pas ça, eh bien, les actes que l'on peut porter, les projets qu'on peut mettre en œuvre, concrets, s'ils ne sont pas portés d'abord par la communion, eh bien, on voit bien que c'est plutôt source de division. On va prendre un couple évidemment qui serait un peu en difficulté, etc. Ils ont les moyens de construire une maison, ils ont touché un héritage, voilà, on va construire une maison et ça va aller mieux entre nous. Mais non, pas du tout. Ah ben moi je veux la salle de bain à droite, non, moi je la veux à gauche, moi je veux que ce ne soit pas une peinture verte, moi je veux que ce soit une peinture rouge, etc. Parce que du coup chacun il va de sa propre volonté, évidemment, parce qu'il se projette comme ça. Parce qu'il n'a pas en amont, c'est pas d'abord dire mais qu'est-ce qui fait qu'entre nous c'est compliqué. Eh bien bien sûr, donc du coup je trouve c'est intéressant ce que ce critère, je trouve c'est un critère de discernement. Vraiment pour nos manières de... Est-ce que ça aide à la communion? Est-ce que ça n'aide pas à la communion? Et de prendre conscience qu'en nous, il y a des choses qui s'opposent à cette capacité d'amour. C'est comme dit, voici son commandement, dit Saint Jean, mettre notre foi dans le nom du Fils, de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Hein, c'est ce sacrement du frère, le sacrement de la charité. Alors je trouve ça intéressant comme critère de discernement de dire... Bah, avant d'entreprendre des projets, de mettre en route des initiatives, est-ce que cette initiative, ce projet, émane de la communion, la fortifie, ou alors au contraire la menace? Et puis, il dit une autre chose qui est intéressante, c'est la communion, être en communion, c'est être attentif les uns les autres. Être attentif, ça beau, c'est une attention. C'est un décentrement de soi-même qui fait qu'on est attentif à l'autre, attentif aux besoins en particulier de nos frères, et du coup de cette attention va faire que j'ai vraiment un souci de l'autre. Je suis allé il y a sûrement déjà plusieurs années à l'abbaye de Timadoc, et à l'abbaye de Timadoc, quand on prend le repas avec les frères, eh bien, il y a une particularité, c'est qu'on ne demande jamais rien. C'est-à-dire qu'imaginons que vous n'avez pas d'eau, vous ne demandez pas au frère d'à côté de vous servir de l'eau. Alors, personne n'est mort de faim jusqu'à présent, mais ça pourrait éventuellement arriver. Mais du coup, parce que parfois, on est fixé sur son assiette, etc. On ne voit pas. Et je trouve ça m'a paru d'être attentif à l'autre. Est-ce qu'il manque quelque chose à l'autre? Tiens, je vois, est-ce que tu as peut-être du besoin de pain? Parce que bon, voilà, c'est des choses toutes quotidiennes, mais qui sont tellement, tellement exigeantes et je trouve mais tellement belles aussi, parce que c'est une manière de se décentrer de soi-même et une manière de porter justement cette communion jusque dans le concret de la vie fraternelle pour ce qui est des frères de Timadoc. Mais je pense que nous-mêmes, des attentions, on peut en avoir de multiples et de... voilà, je trouve que c'est un critère intéressant. Puis un autre critère qui est intéressant, il dit, la communion, elle se fera jamais sans pénibilité. Il y a quelque chose à porter. Supporter, voilà, quelque chose porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. Il y a quelque chose à porter, hein, et c'est pas pour rien que ce sarment et cette vigne, cet épisode-là au chapitre 15e, qui est juste avant le récit de la Passion, indique que pour vivre comme le sarment dans la vigne et attaché au cep. Et être attentif au sarment entre eux, à l'unité du corps, il y a quelque chose à porter, voire à supporter. Ça ne se fait pas tout seul. Cessons de penser à quelque chose qui soit spontané, quelque chose qui vienne malgré nous, comme si c'était magique, etc. Non, il y a quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vient à l'Eucharistie chaque dimanche. C'est pour ça, pour supplier la grâce de la patience, la grâce de l'espérance par rapport à ceux avec qui nous vivons. Et voilà, je trouve que c'est tout le sens de la messe. La communion eucharistique, hein, le pain que nous mangeons, voilà, renvoie aussi au corps que nous formons. Hein. Et donc, du coup, on vient à la messe, non pas parce qu'on est des chrétiens hors pair, l'élite ou que sais-je, non, parce qu'on est des pauvres et qu'on ne sait pas aimer. Et donc, on supplie, on quémande, on est comme des mendiants, hein, tendant la main, suppliant la grâce. Hein, c'est ça, et c'est pour ça que c'est le sens de la communion eucharistique. Parce qu'on prend conscience qu'en nous, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui... Voilà, et seul, ce n'est pas, on ne s'en sortira pas. Hein. Sans moi, comme dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et puis, une dernière chose qui fragilise la communion, dit le Saint-Père, c'est tous ces désirs un peu égoïstes, ces désirs de toute puissance, ces désirs, voilà. Je trouve ça intéressant, si vous avez l'occasion de lire ce texte qui doit facilement se trouver, la spiritualité de communion, de faire le parallèle avec le sarment et la vigne. Hein, moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Voilà, c'est notre capacité de rentrer en lien fraternel les uns avec les autres qui est source de fécondité dans nos vies. C'est ça qui est source de fécondité. Hein, c'est vraiment... Qu'est-ce qui porte du fruit? C'est l'amour qui est fécond, c'est l'amour qui rayonne, qui est diffusif de soi. Et c'est ce dont voilà, nous sentons que parfois nous sommes privés et que nous venons supplier au pied du Seigneur sa grâce pour ouvrir nos cœurs et que transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, nous laisser toucher par celui avec qui ou celle avec qui nous vivons au quotidien. Alors je trouve que c'est... cette question de la fécondité, remettons-la sous la lumière de la communion, remettons-la sous la lumière de la conversion du cœur, évidemment, hein, parce que, encore une fois, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ça demande une conversion, cette parole-là n'est pas évidente à écouter, pas du tout. C'est pas évident à écouter parce qu'on me dit, mais parce qu'on a l'habitude, au contraire, c'est-à-dire c'est l'inverse, c'est toute l'éducation vise à ce que tu sois autonome. Et là, quelqu'un te dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est quand même étonnant. Ça semble même le rebours de ce que l'on a appris dans l'éducation. Hein. Là, c'est, au contraire, c'est d'apprendre à être comme les sarments attachés au cep. Alors, ça demande une conversion intérieure, une conversion du regard, une conversion de notre manière d'envisager événements et personnes. Eh bien, c'est ce que nous pouvons demander pour que cette gloire de Dieu qui s'accomplisse en nous, par les fruits que nous portons. Amen.